bienvenue les auditeurs de Radio Campus. Dans le cadre des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val-de-Loire, Radio Campus, l'ESAD et l'Université d'Orléans proposent une émission sur la notion de Renaissance en architecture, sur l'architecture italienne à travers deux courants qui n'ont apparemment rien à voir puisqu'ils sont très éloignés dans le temps, l'architecture de la Renaissance et puis Super Studio. Alors, la collection du FRAC Centre, elle est passionnante. Troisième collection consacrée aux relations entre art et architecture, c'est un véritable condensé de l'expérimentation en architecture entre 1950 et aujourd'hui. La collection s'est formée autour d'un certain nombre de paysages, architecture sculpture des années 50, architecture radicale d'Archizoom et Super Studio des années 70. Ces groupes d'architectes novateurs, souvent étudiants, viendront nourrir un inconscient collectif chez les architectes contemporains. C'est une archive également de la recherche en mode de vie alternatif. La collection s'est constituée grâce à l'intuition de critiques fondées sur la futurologie et la ville de l'an 2000. À l'occasion de l'exposition Super Studio qui se tiendra au FRAC, La vie après l'architecture, du 3 avril au 11 août, nous vous proposons cette émission pour vous donner envie de découvrir le travail de Super Studio. Nous remercions les étudiants de l'ESAD de participer à cette émission en direct du Bouillon. Ils sont là avec moi. Bonjour Léa, Théo, Audrey, Camille et Audrey. Comment ça va ?
Ça va bien.
Ça va bien ?
Ça va.
Alors, plusieurs séances d'atelier nous ont permis d'écrire des chroniques sur l'architecture. Nous avons été accueillis au FRAC par Laetitia Touloute et Gilles Rion afin de nous présenter la collection et l'exposition Super Studio. On écoutera tout à l'heure des extraits de leur conférence tout au long de cette émission.
Si le design est plutôt une incitation à consommer, alors nous devons rejeter le design. Si l'architecture sert plutôt à codifier le modèle bourgeois de société et de propriété, alors nous devons rejeter l'architecture. Si l'architecture et l'urbanisme sont plutôt la formalisation des divisions sociales injustes actuelles, alors nous devons rejeter l'urbanisation et ses villes. Jusqu'à ce que tout acte de design ait pour but de rencontrer les besoins primordiaux. D'ici là, le design doit disparaître. Nous pouvons vivre sans architecture. Adolfo Natalini, fondateur de Super Studio, 1971.
En quoi les travaux de Super Studio dans les années 60-70 sont-ils innovants, bien que utopiques, dystopiques, négatifs, et qu'ils remettent en cause l'architecture moderne ? Quel est l'impact de cette pensée sur les fondements de l'architecture ? Quelles similitudes, points de comparaison ou de confrontation peut-on trouver entre l'architecture de la Renaissance et l'architecture radicale de Super Studio ?
Et Archizoom et Super Studio, ce sont à l'époque encore des étudiants à l'université de Florence. L'architecture s'apprend à l'université en Italie. Et les uns comme les autres considèrent que si dorénavant la seule réalité, ou la réalité n'existe plus mais n'est que dans l'image, il n'y a plus que des images, ce qui est très, très situationniste d'ailleurs, très société du spectacle, qui sortira après. C'est-à-dire que si on ne peut plus considérer que la réalité est faite d'objets tangibles, une tasse par exemple, mais que la réalité est faite de l'image de cette tasse, que tout en fait devient logo, que tout devient publicité, que tout devient des signes, eh ben allons-y gaiement et faisons en sorte de produire une architecture qui n'est plus que du signe elle-même, qui n'est plus de l'objet. Ou si c'est de l'objet, c'est d'abord du signe. Et je vais vous montrer un projet que nous avons en collection qui est très révélateur, qui sera présenté dans l'exposition, qui est d'Archizoom. Et qui va être produit à peu près à cette période, 67. Ce sont les lits de rêve. Et les lits de rêve expriment très bien cette idée que en fait, il n'y a plus que du signe. Donc si c'est du signe, ben, allons-y gaiement et faisons du signe avec du signe, quitte à pousser le vice jusqu'au kitsch. Archizoom produit en 67 une série de lits, qu'ils appellent des lits de rêve. Donc ce sont des chambres, en fait, qui sont le plus kitsch possible, qui font tous et toutes référence à des matières, à des signes préexistants, à la culture pop de l'époque. Hein. On a l'impression de voir une pochette de disque sur le lit. On a également l'impression de voir des haltères de part et d'autre qui tiennent un arc-en-ciel. Une chambre en marbre, mais qui en fait n'est pas du marbre et s'affirme comme étant du simili-marbre, du faux marbre. Donc encore une fois, du signe de marbre. Et évidemment, l'objectif, c'est de dénoncer encore cette chambre qui est encore plus kitsch et qui est encore plus, plus révélatrice. Vous reconnaissez peut-être vous voyez peut-être les anneaux qui sont au-dessus du lit, dont la connotation évidemment est érotique, voire plus. Et l'idée évidemment, c'est de produire du signe jusqu'au kitsch, voire presque jusqu'à la pornographie. C'est une forme de dénonciation. Superlative, si vous voyez ce que je veux dire. Superlative, ça veut dire qu'on pousse jusqu'au paroxysme. On produit de l'ironie en allant plus loin encore. On est dans du Rabelais, en fait, ici. Et donc, c'est une stratégie superlative. Cette stratégie superlative sera celle que va employer le groupe qui se crée pour cette occasion-là, pour l'exposition qui s'appelle Super Architecture et qui a lieu en 66, ce groupe, c'est Super Studio. Le groupe d'étudiants va donc constituer deux groupes d'architectes, Super Studio d'une part et Archizoom d'autre part. Et ces deux groupes qui mettent en place cette stratégie-là vont ensuite travailler l'un à côté de l'autre, mais vont être les fers de lance de ce que notre ami German Ocellan appellera plusieurs années plus tard l'architecture radicale, et qui a pour volonté de redéfinir, revoir, rétablir tout ce que vous voulez qui commence par re, révolutionner, voire faire disparaître le langage de l'architecture. Et je dis disparaître parce que même si là on est dans de l'objet plus, dans l'objet superlatif, comme je vous disais, l'un et l'autre vont travailler progressivement à une disparition de l'architecture et de l'objet architectural pour qu'il ne reste pratiquement plus rien, si ce n'est ce qui constitue pour eux l'essence même de l'architecture, c'est-à-dire l'homme tout simplement.
Nos recherches d'étudiants en art et design nous ont fait questionner sur qu'est-ce qu'était Super Studio, l'architecture de la Renaissance et quels étaient leurs rapports, la transition, la conceptualisation de l'architecture, l'innovation, l'invention, l'humanisme et la modernisation, ou encore la grille, la perspective, la technique, transformer l'architecture, remettre en cause les fondements de l'architecture, l'utopie et la dystopie, la cité idéale et la recherche d'esthétisme. Cash Money AP.
Weird Clan.
Oh. Okay, fuck. Yeah, fuck, I do that shit. Hey.
Hey. C'était Cyber avec le titre A sur Radio Campus 88.3. Vous êtes toujours dans Écoute ta fac. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'architecture, et plus particulièrement d'architecture radicale et de super studio. Vous pourrez voir les œuvres que je vais vous présenter au FRAC à partir du 3 avril. Pour commencer, Super Studio est un collectif de jeunes architectes fondé en 1966 en Florence par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo di Francia, dissous une dizaine d'années plus tard. Super Studio revendique, dans ces années de contestation, une pratique conceptuelle de l'architecture, à travers photomontage, prototypes de mobilier, films ou textes aux accents provocateurs. Le groupe développe une critique de la culture pop anglo-saxonne. En 1966, il participe avec Archizum à l'exposition Super Architecture, souvent considérée comme acte fondateur du mouvement radical et présente à travers leur projet. Une interprétation idéologique, critique et ironique de la société de consommation. Super Studio part d'un constat d'échec de la ville moderne à concrétiser l'épanouissement social et culturel des individus. Son but est donc de faire disparaître le langage de l'architecture, ne laisser que l'essence même de l'architecture, c'est-à-dire l'homme. Le lien entre l'architecture et l'art avec Super Studio est très proche. Leurs œuvres sont souvent mises en récit, créant des fictions. Ce récit sert à produire un discours critique sur l'objet et le monde. Ses œuvres inspireront des films comme Zardoz, film post-apocalyptique, se passant en 2293. Ils ont notamment réalisé Monument Continu en 1969, série de photomontages. Dans ces différents photomontages, on peut voir une structure énorme, très simpliste, cubique, recouverte d'une grande grille pour motifs. Cette structure est branchée à un habitat naturel, des montagnes, des lacs, falaises, mais aussi à la ville de New York, démontrant une nouvelle façon de s'implémenter dans un milieu, habité ou non. Cette mégastructure devient un monument continu, une cellule habitable pour les hommes, traversant naturel et urbain. Les utopies proposées posent plus de réflexions sur l'avenir de l'homme avec son environnement que sur l'architecture en elle-même. Ces monuments montrent une image assez humble de l'homme et simpliste. Ces structures sont blanches, sans décoration, extravagantes et ne dénaturent pas la flore. Elles montrent une réalité alternative de notre monde et questionnent donc sur la voie qu'a pris l'humanité. Super Studio a aussi réalisé les 12 villes idéales ou 12 contes prémonitoires pour une renaissance mystique de l'urbanisme en 1971, qui sont en réalité dystopiques, voire prémonitoires. Je vais donc vous décrire une ville idéale pour que vous compreniez le concept de ces travaux et vers quoi cela mène. Je vais prendre l'exemple ici de la première ville idéale, qui est aussi appelée ville 2000T. Dans cette réalité alternative, chaque personne se retrouvera seule dans une grande cellule encadrée par un plafond et quatre murs colossaux. Dans cette ville, la mort n'existe plus. Tous les besoins primaires de l'homme sont assouvis par une chaise collée à une des parois de la cellule. Alimentaire, physiologique, excrémentif et sexuel. Chaque personne se retrouvera donc seule toute sa vie. Elle peut cependant donner la vie via un dispositif et non une autre personne, mais son enfant sera directement placé dans une nouvelle cellule où il y aura toute sa vie. Sur le plafond, un écran est connecté à notre cerveau. Aucune idée de rébellion n'est donc possible dans ce lieu. La première fois, il n'arrivera rien aux rebelles, mais si cela se répète, le plafond de 2000 tonnes qu'il a connu toute sa vie s'écrasera sur lui. À la fin de ces douze villes idéales, un quiz est proposé par Super Studio. Pour chaque ville que nous avons aimée, une description très peu gratifiante de nous est décrite. Si vous avez aimé l'idée de cette ville, voici la conclusion de Super Studio pour vous. Vous avez aimé entre trois et une ville. Vous êtes une sorte de ver. Vous avez compris, mais vous ne voulez pas le reconnaître en vous-même. Vous vous êtes amputé de vos jambes, de vos bras, de vos dents, parce que vous avez eu même peur de fuir. Et à présent, vous restez caché dans les coins obscurs, le museau plongé dans la boue pour ne pas voir, pour ne pas entendre. Mais le dégoût de vous-même réside dans le fait que vous voudriez avoir moins peur pour pouvoir être comme les autres. Vous êtes un être humain. Mais ce serait moins pire si vous n'y étiez pas. Vous en êtes aperçu ? Vous êtes un obscène mutant. Chaque ville idéale montre une réalité dystopique où notre soif d'évolution nous déshumanise. Ça a sûrement inspiré Black Mirror, série qui connaît un grand succès et diffusée pour la première fois en 2011. Donc maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle œuvre qui se nomme Super Surface. Donc, contrairement aux 12 villes idéales, Super Surface montre un retour à l'état nature de l'homme, sous la forme d'un film. c'est le premier épisode des actes fondamentaux. Ces cinq actes, selon Super Studio, sont la vie, l'éducation, la cérémonie, l'amour et la mort. L'homme devient nu, tant dans le sens physique que métaphorique, c'est-à-dire nu en culture, économie, politique, etc. C'est un retour aux sources, là où industrialisation n'est plus. La vie des nomades nous montre déjà la possibilité d'une vie sans besoin d'un toit. L'homme se retrouve en autarcie, il se suffit à lui-même. Sur une surface lisse, marquée par une trame carrée, étendue à l'infini, se déroulent des scènes de la vie quotidienne, des scènes domestiques, ordinaires et banales. Aucune composition spatiale n'est prédéfinie. C'est l'usager qui qualifie lui-même son espace par le scénario qu'il devra développer pour répondre à ses besoins. On peut voir notamment un homme et une femme se balader sur une plaine, s'asseoir, manger, parler avec une voix off disant que nous resterons silencieux pour écouter notre corps, que nous serons peut-être capables dans le futur de déplacer des objets avec notre esprit, que nous irons à un point A juste pour l'admirer, que notre cerveau tombera sur lui pour lire sa propre histoire. L'unique forme d'art dans ce monde serait l'environnement. Supersurface fut par la suite une source d'inspiration pour tous, avec l'architecture radicale devenant signe et non objet en premier. Si cela vous a intéressé, il y a la possibilité de découvrir les œuvres de Super Studio sur le Frac Centre, le site du Frac Centre.
Renaissance marque les arts en Europe, mais que désigne ce terme et qu'est-ce qui renaît ? Le 15e et 16e siècle est une période de transition entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Et c'est cette période, appelée la Renaissance, qui est caractérisée par une série de changements politiques, économiques, sociaux et intellectuels dont on va parler. À cette époque apparaît également un nouveau mouvement humaniste, une philosophie qui place l'être humain et les valeurs humaines au centre de la pensée. L'humanisme se caractérise par un retour aux textes antiques et par la modification des modèles de vie, d'écriture et de pensée.
La Renaissance, c'est le retour dans le passé et une soif de connaissance, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Cette période et ce courant naissent en Italie au XIVe siècle. Et des hommes de lettres comme Pétrarque et d'autres redécouvrent l'Antiquité et se plongent dans la lecture de textes d'Aristote, d'Ovide, de Pline l'Ancien. Et ce sont des érudits qu'on va appeler les humanistes, qui ne veulent plus se contenter des interprétations véhiculées jusqu'ici par l'Église. Ils veulent revenir aux sources de la connaissance. C'est dans cette dynamique que l'Antiquité devient un modèle pour les sciences, la politique et l'art. On va se pencher sur l'art gréco-romain, d'où l'inspiration trouvée notamment dans la mythologie. Par exemple, quand on regarde des tableaux comme La naissance de Vénus de Botticelli, Mars et Vénus de Mantegna. Et on va souvent percevoir la Renaissance comme le début des temps modernes, car l'homme y tient une place nouvelle, une place qui va être centrale avec l'humanisme, et je pense de manière symbolique au dessin que tout le monde connaît de Léonard de Vinci, les proportions du corps humain. D'ailleurs, Léonard de Vinci est un pionnier de la Renaissance. C'est un ingénieur, un scientifique, un architecte, un peintre, un sculpteur et un musicien. Et c'est un personnage emblématique de la période. Il est considéré comme un génie universel de par ses nombreuses œuvres et inventions novatrices, bien que toutes n'aient pas pu aboutir. Dans cette recherche de connaissances, les hommes explorent le passé, s'en inspirent, mais ne le copient pas. Ils vont essayer même de le surpasser. Et cette curiosité va mener à de formidables inventions, ce qui va impulser le phénomène de Renaissance dans toute l'Europe. Parmi les avancées, celle de l'imprimerie en 1450 va permettre d'échanger des images et des idées, bien au-delà des frontières, et de publier des ouvrages imprimés sur papier autrement plus abordables que les parchemins de l'époque. Il s'agit d'une révolution comparable à celle de l'arrivée d'Internet sur notre société actuelle. Tout va très vite à cette période. La vitesse à laquelle se propagent les idées de Luther en Europe et les guerres de religion entre catholiques et protestants qu'elles vont provoquer. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, qu'il ne faut pas oublier. Cette dernière s'inscrit encore une fois dans un contexte de progrès, ceux de la navigation moderne, en l'occurrence, avec l'étude des cartes anciennes, à l'attrait économique que l'on doit toujours à cette curiosité, à cette soif de connaissance à l'époque. C'est à la Renaissance également que l'astronome Copernic est amené à conclure que la Terre n'est peut-être pas immobile au centre de l'univers. Ce savant polonais étudie la théologie avant de s'orienter vers l'astronomie tout en enseignant les mathématiques. Et c'est ce profil éclectique, comme celui de Léonard de Vinci évoqué précédemment, qui reflète bien ce que sont les humanistes à cette période de l'histoire. Les savants y sont d'ailleurs protégés et encouragés par les grands maîtres de l'Europe, Charles Quint, François Ier, Henri VIII, le pape Léon X, qui entrent en compétition pour affirmer leur pouvoir. Ils veulent en fait avoir la cour la plus brillante. La Renaissance, nous l'avons vu, a bouleversé en Europe de nombreux domaines et disciplines, notamment artistiques, et parmi eux l'architecture. Comme pour le reste, c'est en Italie qu'elle évolue à l'origine, pendant le Quattrocento. La Renaissance italienne connaît trois phases. La première Renaissance, de 1420 à 1500, la Haute Renaissance, de 1500 à 1525, et le maniérisme et académisme, de 1525 à 1600. Lors de la première Renaissance, en faisant un bond dans le passé, on redécouvre des vestiges de l'architecture romaine antique et les écrits de Vitruve, De Architectura, architecte et ingénieur romain. Filippo Brunelleschi est un grand nom de l'architecture de la Renaissance italienne. Il est à l'origine de nombreuses innovations, comme la basilique de San Lorenzo, la cathédrale de Santa Maria, et j'en passe. Avant même de s'intéresser aux techniques de construction émises par Vitruve, il est fasciné par l'idée que des principes mathématiques et géométriques, la symétrie, les proportions, la régularité, puissent donner des proportions aussi harmonieuses aux édifices. Il s'inscrit dans le mouvement des humanistes, qui prend l'homme comme mesure de référence et invente la perspective. À cette période, les architectes s'éloignent alors du style gothique, plutôt caractéristique du Moyen-Âge, pour se réapproprier l'esthétique des arts gréco-romains. Naît alors un certain formalisme architectural où on va favoriser l'harmonie, la recherche du beau, plutôt que la technique et la prouesse, encore une fois plutôt caractéristique grossièrement du Moyen-Âge. Brunelleschi étudie les vestiges des monuments de l'Antiquité de Rome et trouve un certain attrait pour les colonnes et les dômes notamment. Mais comme évoqué précédemment, si l'époque antique apparaît aux architectes de la Renaissance comme un idéal architectural, il ne s'agit pas pour autant de copier, mais plutôt de s'inspirer, voire de surpasser ce qui se faisait. On peut constater cette rupture avec les habitudes du Moyen-Âge, à la construction de palais notamment, dans plusieurs villes d'Italie comme Florence, Rome, Vérone, Venise, Byzance. Pour la première fois, l'art pénètre la sphère privée en écho à la nouvelle place centrale que tient l'homme dans les nouvelles mœurs de la société de l'époque. La grande famille des Médicis en est à l'origine d'un certain nombre, notamment grâce à leur architecte Michelozzo, qui va être l'architecte du palais de Médici-Riccardi, la villa médicéenne de Trebbio, ou encore la villa médicéenne de Cafaggiolo. Sur le modèle de la villa de l'empereur Adrien, les aristocrates font construire de vastes résidences en campagne. Des architectes comme Palladio, Jules Romain, Raphaël excellent dans ces projets, et Andrea Palladio, par exemple, va accorder une importance à l'union entre la nature et l'architecture. Il construit la Villa Rotonda en haut d'une colline, offrant une magnifique vue. Il choisit alors de ne pas faire qu'une seule façade principale, mais quatre, qui font ainsi bénéficier le propriétaire d'un panorama extraordinaire pour l'homme à nouveau. On continue néanmoins de construire des édifices religieux, mais ces derniers suivent les nouveaux codes de l'architecture de la Renaissance. Typiquement Brunelleschi, Bramante et Michel-Ange vont systématiser la coupole, le plan centré, circulaire, polygonal ou en forme de croix grecque, inspiré du Panthéon de Rome. Et ce style géométrique du Quattrocento prendra son importance pendant la Renaissance classique, au XVIe siècle. La mode est alors aux colonnes, aux corniches, aux pilastres sculptés, et les architectes recherchent cette géométrie pour apporter de l'harmonie dans leur construction. Et c'est à partir du maniérisme né en Italie au début du XVIe siècle que les architectes reproduisent en plus grand des sculptures de l'Antiquité. On voit souvent des colonnes sur deux étages, des statues, des ornements antiques, comme des guirlandes, des têtes de bélier, des masques, des feuilles de vigne, qui, comme toute mode, reviennent au goût du jour. Et va se développer un genre pourtant à l'opposé du classicisme de la Renaissance qui préfère les lignes simples et les décors sobres.
Revenons avec Gilles Rion à ce qui constitue le monument continu et l'usage de la grille comme superstructure totale.
Alors ça sera l'œuvre inaugurale, enfin l'œuvre d'entrée de l'exposition, qui sera présentée en premier dans l'exposition, et c'est ce que vous avez au sol. Entre le moment où Super Studio et Archizum fondent leur groupe et ils sont dans la stratégie d'un objet kitsch et superlatif, et ceci, on est en quelle année
là ? En 69.
On est en 69, il y a 3 ans. Et sur ces 3 années, on pourrait croire que Super Studio passe du kitsch, du paroxysme, du pentagruel à ça, c'est-à-dire à une forme ultra-rationaliste de la forme de l'objet. Ce que vous avez là, c'est ce qu'ils appellent les histogrammes ou encore les tombes d'architectes. Les tombes des architectes. Effectivement, on pourrait y voir des pierres tombales. Pour eux, ce sont des diagrammes sur lesquels ils expérimentent, mais là aussi de façon superlative, encore une fois, ils sont encore dans le super. Ils vont tester une réduction draconienne du langage d'architecture à l'élément qui leur paraît le plus essentiel depuis au moins la Renaissance, c'est la grille. Et là où ils étaient dans une profusion de signes extrêmement pop dans un premier temps, ils vont vouloir chercher une forme de design unique en trouvant un langage le plus simple qui soit, le plus minimal qui soit, le plus pauvre aussi, qui pourrait ensuite être appliqué à toutes les échelles. Depuis le mobilier, le design, jusqu'à l'architecture, jusqu'à la ville. Et qui deviendrait la toile de fond de la vie humaine. Mais même dans leur réduction, finalement, ils sont superlatifs. Même dans leur volonté d'aller plus loin encore et plus profondément encore dans un degré zéro de l'architecture, ils sont paroxystiques. Alors évidemment, l'idée qu'on va retrouver, vous verrez encore plus dans les scènes du monument continu, c'est presque le télescopage extrêmement fort et violent entre des scènes de vie quotidiennes, je ne suis pas sûr, parce que c'est pas mon quotidien, mais entre le réel et ces éléments mobiliers-là, et cette grille-là. C'est vrai dans les images que vous voyez là, où effectivement ces deux hommes et ces deux vaches regardent avec un air plutôt interrogateur, les vaches également, ce mobilier qui, d'une manière ou d'une autre, n'a rien à faire dans ce champ-là. Si ce n'est quand même que ce mobilier transforme le champ en espace de vie quotidien. Et si cette grille est valable à l'échelle du mobilier, elle peut aussi être valable à l'échelle de l'architecture. Il suffit juste d'agrandir, d'opérer une translation qui nous permet en fait de transformer le petit carré tout à l'heure en cellule d'habitation et d'obtenir une forme de mégastructure particulièrement effrayante, même s'il semblerait qu'à l'origine, ils ne le conçoivent pas comme ça, comme quelque chose d'effrayant. Mais le petit cube de tout à l'heure devient une cellule habitable qui, les unes à côté des autres, forme un monument continu, c'est le terme, qui met fin à tous les autres monuments, qui va traverser des paysages naturels, mais également des paysages urbains, tout cela.
La grille, système modulaire, est le fondement de l'architecture. Depuis, les architectes suivent une grille, une logique de construction, comme par exemple le Parthénon en Grèce, un enchaînement logique de colonnes bien droites et alignées. Au XVe siècle, Brunelleschi crée la perspective et construit hôpital, chapelle, église, suivant un système modulaire unique qu'il perfectionne par la suite. Le château de Chambord est une création architecturale exceptionnelle, influencée par le travail de Léonard de Vinci. À l'image des monuments de l'Antiquité romaine, comme le Colisée ou des édifices italiens du Quattrocento, les façades du château de Chambord offrent une grande visibilité du plan du château depuis l'extérieur. Les niveaux habitables sont visuellement séparés par un bandeau mouluré ou corps de moulure courant à l'horizontale sur toute la largeur de la façade. Dans le sens vertical, le rythme est donné par des piliers aplatis ou pilastres sur lesquels les bandeaux semblent reposer, La disposition de ces éléments forme un quadrillage à l'italienne, immuable et régulier. Le Corbusier met en œuvre 5 points fondamentaux à la construction de l'habitat. Il crée une architecture et un esprit nouveau. Il crée des habitats suivant la grille, offrant tout confort aux hommes. Eau chaude, électricité, chauffage. Ces constructions répondent aux besoins sociaux et humains de l'homme moderne, des espaces fonctionnels. Ces 5 principes de construction sont un bâtiment surélevé sur des pilotis, une ossature autoporteuse formée de piliers de poutres, des façades vitrées, un plan libre modulable, selon les fonctions des bâtiments et leur évolution, un toit terrasse servant de jardin suspendu. Il ajoute à ses architectures des couleurs pour ne pas couper l'homme du monde et l'encourager dans sa création, et reflète ainsi sa réflexion. Par exemple, vert, pour adapter l'architecture à son environnement et garder un contact permanent avec la nature. Jaune, une architecture évoluant avec la lumière. Bleu, un contact permanent avec l'espace. Et rouge, l'homme est le créateur de sa création et le moteur de sa création. Le Corbusier, en 2 citations, une maison est une machine à habiter, et il dit aussi « là où naît l'ordre, naît le bien-être ». Super Studio démonte les fondamentaux de l'architecture menée par Le Corbusier en 1920, en remettant en cause l'espace de vie et l'espace de travail. La compartimentation des espaces de bureau y reflète la déshumanisation du travailleur. L'individu est isolé, coupé de la vie sociale, dans un espace-temps pétrifié. La mobilité semble alors une voie d'émancipation. Les expérimentations architecturales des années 1960 et 1970 s'attachent ainsi à mettre en exergue la libération de l'individu tant dans son lieu de travail que dans son lieu d'habitation. Au travail se substituent désormais les notions de jeu et d'appropriation individuelle de l'espace collectif. Il le remet également en cause suite à ces architectures qui s'étendent à l'infini, la grille. Recouvre tout, territoire, architecture, ville, et n'offre pas pour autant d'abri à l'homme. Il est libre dans la nature. Cette grille qui s'étend, elle peut aussi se réduire à en devenir des objets ou du mobilier urbain. L'homme est libre de ses choix. Les architectes du groupe Super Studio 1966-1978 conçoivent en 1969 le monument continu, un modèle architectural d'urbanisation totale, dans lequel une grille ininterrompue parcourt la terre. Le groupe Super Studio crée la notion de supersurface architecturale en cassant la théorie de l'habitat de Le Corbusier. Ainsi, la création de cette grille en continu et homogène, susceptible de s'étendre à l'infini, acte la disparition d'échelles entre architecture, mobilier et urbanisme. Cette représentation graphique en tant que design territorial se décline sur tout type de support. Un bureau peut servir de table pour se nourrir ou de lit pour dormir. Les créations de super studios n'ont ainsi pas d'existence en soi. Seul importe l'usage que l'on en fait. Sur une photo célèbre, les membres de Super Studio travaillent non pas dans leur agence, ni dans un immeuble, mais à l'extérieur, au milieu d'un jardin. Leur mobilier de bureau est une variante de ces représentations graphiques, parcourues par la même trame, unifiant l'espace de travail et de vie au sein d'un seul objet générique et indifférencié. Le design devenu parfait et rationnel. Dans cette absorption d'objets neutres, le travail est à nouveau devenu une activité d'ordre fantomatique, irréprésentable et diffuse.
Donc vous voyez aussi comment leur système, leur grille, en fait leur grille est presque paradoxale et ambiguë. Parce qu'ils considèrent qu'effectivement c'est un objet qui va permettre de refonder l'architecture, mais c'est un objet, un système qui paraît lui-même, et comme tout système d'ailleurs, qui est totalitaire, qui n'envisage pas de hors-système. Un système, une pensée en système, c'est une pensée qui n'envisage pas de marge, en fait.
Alors, on écoutait Gilles Rayon, coordinateur artistique général du FRAC Centre. Et maintenant, on passe à de la musique avec Cosmo Animali. C'est un remix de Not Waving sur un label italien, bien sûr. comment l'homme vit-il au sein de ces architectures englobantes, de ce design unique à la fois rassurant et flippant? Explorons maintenant la dimension anthropologique qu'apporte Frassinelli du groupe Super Studio avec les villes idéales, villes cauchemardesques parce qu'idéales et utopiques.
À l'époque, il y avait, ils étaient en 66, ils sont deux membres de Super Studio, il y a Natalini et Toraldo Di Francia, qui sont rejoints en 68 par Frassinelli, avec lequel nous, Gian Piero Frassinelli, avec lequel nous collaborons sur l'exposition, plus particulièrement. Ce Gian Piero Frassinelli est extrêmement doué en dessin et en perspective, et c'est lui, c'est à partir de son arrivée presque, que nous avons toutes les perspectives que nous venons de voir, et tous ces photomontages-là, qu'il réalise, lui, pour Super Studio. Mais notre ami Gian Piero Frassinelli a également une formation anthropologique. En tout cas, un intérêt très fort pour l'anthropologie, qui était son sujet de thèse en architecture. Il voulait faire un centre d'anthropologie. Donc, comme c'est un de ses centres d'intérêt, derrière, quand on s'intéresse à l'anthropologie, normalement, on est censé s'intéresser aussi à l'homme. Et à la façon dont l'homme vit. Gian Piero va particulièrement s'intéresser à ce que doit vivre l'homme qui habite dans ce monument continu. Dans sa petite cellule dont on a les chiffres, je ne sais plus combien, elle doit faire 3 mètres sur 3 mètres ou 5, 6 mètres sur 6 mètres, je ne sais plus. Mais bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ressent cet homme, même s'il est doté de toute la technologie de l'époque qui lui permet d'avoir un air climatisé, d'avoir un ensemble de dispositifs qui lui permet de se nourrir ou de se faire ses besoins sans avoir besoin de sortir de sa cellule et que tout va bien et qu'en fait il vit dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce que vit un homme qui vit dans le meilleur des mondes? Qu'est-ce qu'il ressent, cet homme? Et donc à l'issue du monument continu, Gian Piero Frassinelli va écrire les 12 villes idéales, 12 contes. Chacun décrivant une ville idéale qui, en fait, est une ville, évidemment, cauchemardesque. Cauchemardesque parce que idéale et utopique. Et peut-être qu'il n'y a rien de pire que les projets utopiques qui ont été envisagés et écrits tant par Thomas More que par les autres. Parce qu'effectivement, si tout va bien, c'est que plus personne n'a le droit d'aller mal non plus. En tout cas, de ressentir une diversité de sentiments plus grande. Ce qu'on appelle du coup une dystopie. Et finalement, la différence entre utopie et dystopie, ce n'est jamais que le regard que l'on porte sur cet objet-là. Mais lui, il va écrire très clairement 12 dystopies, 12 villes dystopiques, qui sont extrêmement bien écrites, qui vont être publiées en italien, en anglais et puis en français ici dans la revue Créée. Et donc vous avez les dessins qui accompagnent ici et qui montrent chacune de ces villes. T'as mis les 12 ou pas?
Non.
Donc ici on a la première ville. Donc vous voyez que c'est décrit dans la première ville. Vous avez la chance évidemment lorsque vous vivez dans cette ville d'avoir deux murs qui donnent sur l'extérieur. Il y a un mur sur lequel il y a une chaise, si je me souviens bien. Cette chaise vous permet de vous envelopper complètement. Vous relirez hein, parce que je l'ai lu rapidement. Cette chaise va permettre de vous envelopper pour éviter que vous ayez froid, que vous ayez chaud, que vous ayez faim, que vous fassiez vos besoins. Je crois même que c'est par cette chaise-là que vous tombez enceinte et que vous accouchez. Et lorsque vous accouchez, la chaise vous permet de capter le bébé sans aucune douleur et d'aller le mettre dans une cellule dans laquelle il passera lui-même, une cellule qui lui appartiendra et dans laquelle il vivra toute sa vie sans aucun besoin, sans aucun problème. Super.
Dans l'histoire des utopies, la République de Platon est un ouvrage fondateur. Le philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ présente dans son dialogue la réflexion sur la construction d'une cité imaginaire parfaite. Pour autant, Platon ne considère pas ses créations comme irréelles, même si elles sont nées de l'imaginaire. Bien au contraire, il souhaite qu'elles deviennent réalité et envisage dans son texte des modalités de mise en œuvre de telles constructions politiques. C'est d'après ces ouvrages que Thomas More s'inspire pour écrire son livre Utopia en 1516. Il devient le créateur du mot utopie, qui signifie pour lui un lieu qui n'est dans aucun lieu, une présence absente, une réalité irréelle, un ailleurs nostalgique, un allitéré sans identification, mais qui reste un monde parfait. Dès le départ, l'utopie fait appel à l'architecture et à l'art urbain afin de renforcer sa crédibilité. Dans Utopia, l'île imaginée comporte ainsi des villes régulièrement agencées, ainsi que des bâtiments de l'ordre social, comme des salles à manger et des crèches. Avec cette fiction, cela va devenir très vite un genre littéraire à part entière. L'île des esclaves est une utopie sociale qui rappelle le motif de l'île paradisiaque de Thomas More. Dans l'utopie, l'écrivain y décrit un endroit où les hommes vivent en harmonie, sans conflit d'intérêts ni injustice. La Cité du Soleil de Tommaso Campanella accorde une importance encore plus nette aux aspects urbains et architecturaux avec sa ville concentrique qui fait songer aux projets d'architectes et d'ingénieurs de l'époque. S'ensuit ensuite de récits qui tournent toujours autour d'un monde idéal jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à l'apparition des dystopies. La dystopie est un monde mauvais. Le premier utilisateur de ce mot est John Stuart Mill. Parmi les romans les plus connus, nous avons « Le meilleur des mondes » d'Huxley, « Limbo » d'Orwell, « Paris au XXe siècle » de Jules Verne, etc. Et dans tout ça, nous avons Super Studio. La plupart de leurs projets sont contre-utopiques, comme par exemple « Les 12 contes prémonitoires pour une renaissance mystique de l'urbanisme ». Ce sont des écrits venant de leur imagination, des villes étranges et invraisemblables. Cela montre un monde sombre et dystopique. Par exemple, on devrait habiter dans des cellules coupées du monde ou se mettre à la place d'un robot pour vivre. On devrait être obéissant aux règles et si on veut s'échapper, on meurt de façon atroce. Alors personne ne souhaite vivre dans ces mondes. Et si ces mondes devenaient prémonitoires, comme Orwell l'a écrit dans son livre 1984, qui décrit une société absolument totalitaire qui ne laisse rien au hasard et qui a servi complètement les populations.
Et donc Frassinelli va travailler sur ce thème avec surtout, j'attire votre attention sur la dernière page, qui est la conclusion, qui explique que il s'agissait en fait d'une forme de quiz, l'avant-dernière page peut-être, d'une forme de quiz qui est destinée à savoir ce que vous êtes. Donc si vous avez aimé plus de 9 villes, vous êtes sur les 12, vous êtes un chef d'État, ou un zombie. Si vous en avez aimé entre 6 et 3, vous êtes un robot. En 3 et 1, vous êtes un mutant. Si vous n'en avez aimé aucune, vous êtes un idiot. Parce qu'en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de ville future, mais tout simplement de la ville dans laquelle d'une allégorie décrivant les villes dans lesquelles vous habitez aujourd'hui, qui sont des villes totalitaires. Et on en revient à un système urbain totalitaire. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. L'architecture pour ces groupes-là, et notamment Super Studio, c'est d'abord et avant tout, ils passent par la dystopie, ils passent par le récit et la fiction pour faire une critique de la ville et de la société d'aujourd'hui. Thank you. Et les actes fondamentaux consistent à définir les cinq moments cruciaux de la vie de chaque homme. Donc c'est la vie, l'éducation, l'amour,
la cérémonie
et la mort. Chacun de ces actes fondamentaux va être l'objet d'une étude par Superstudio et d'une représentation sous la forme de photomontage, d'un storyboard. Storyboard qui va être un principe extrêmement important chez Superstudio et qui donnera lieu à des films parfois, mais pas toujours. En tout cas, pas sur le moment même. Certains films ont été tournés par la suite. Mais storyboard qui est aussi encore dans la plus pure tradition de l'architecture radicale, qui est une forme de réappropriation de la culture populaire qu'est le cinéma, la bande dessinée, la fiction, vers une culture qui n'est a priori pas populaire, mais qui serait une culture d'élite, ou en tout cas un art d'élite, les beaux-arts, c'est-à-dire l'architecture. On est encore dans cette très années 50-60, hein, ce mix entre culture populaire et culture intellectuelle ou d'élite. Et donc les cinq actes fondamentaux vont reprendre le principe de la grille, mais la grille devient une forme de super surface, si vous voulez, c'est-à-dire de grille au sol, sur laquelle vont se dérouler ces fameux actes fondamentaux qui montrent une forme de disparition radicale aussi de l'architecture, en ce qu'il n'y a plus aucun abri, mais que l'architecture se cantonne tout simplement aux actes même, aux actions, à ce que vit l'habitant. La seule architecture qui soit, c'est l'acte même, c'est l'homme lui-même, sur cette super surface, c'est-à-dire le design unique dont on parlait tout à l'heure, le monument continu n'est plus enfermant, il n'est plus englobant, ce n'est plus un abri, c'est tout simplement une surface sur laquelle se déroulent les activités quotidiennes ou les actes fondamentaux. Et donc c'est dans les actes fondamentaux, parmi les cinq actes fondamentaux, il y a une installation qui est celle-ci, qui s'appelle Super Surface et qui est associée à l'acte fondamental de la vie et qui fait justement la démonstration de ce que serait, voilà, vous êtes dedans, cette super surface qui est la déclinaison à l'infini de la grille sur laquelle dorénavant l'homme nu pourra vivre dans une forme d'état de nature retrouvé. Et ils iront même jusqu'à cet intérêt pour l'homme et l'anthropologie font que progressivement, et plus particulièrement à partir du début des années 70, cet homme nu, ils vont pratiquement aller le rechercher physiquement, cet homme d'avant la culture, et plus particulièrement cet homme d'avant la culture industrielle et capitaliste, ils vont vouloir aller le rechercher en développant une approche ethnographique. Ce qui va être le nouveau cri de ralliement de l'architecture radicale au début des années 70, qui va s'intéresser plus particulièrement aux cultures paysannes et aux objets produits, aux objets usuels, produits par les cultures paysannes qui considèrent être comme des cultures marginales. On a, je ne l'ai pas lu directement, mais quelque part probablement, on a une forme d'écho lointain de ce que Dubuffet a fait sur un autre terrain. Mais de ce qui se pratique partout à la même époque. Hein. Donc ici, et notamment en Superstudio, au travers d'un séminaire qu'ils vont animer à l'Université de Florence, ils vont inviter les étudiants à aller sur le terrain, rencontrer les gens dans les villages, et à comprendre comment ces gens fabriquent leurs objets, pour là aussi être dans une forme de refondation de l'architecture et du design, mais non plus par une forme de réduction rationaliste par la grille, mais par un retour au réel, si vous voulez, un retour aux sources qui serait celle de la culture précapitaliste. Et ils vont notamment s'intéresser à ce monsieur qui s'appelle Zeno Fiacci, qui est capable de vivre pratiquement en autarcie parce qu'il produit tous ses outils lui-même. Et donc ils vont collectionner les outils, ils vont raconter l'histoire de Zeno, ils vont suivre ce personnage plus particulièrement, ils vont présenter le résultat de ce travail à la Biennale de Venise en 1978, à côté d'une autre installation
Nous avons donc parlé de Super Studio, cette agence d'architecture italienne des années 70 et de la renaissance de l'architecture du 15e siècle. On peut déjà constater que presque 400 ans environ séparent ces deux mouvements, et c'est pas cet écart de temps qui les éloigne pourtant. Parce qu'en effet, on se rend compte par la description de mes collègues qu'il y a plusieurs points communs. Cette recherche d'utopie, une notion très importante dans ces deux mouvements, recherche de ville, cité parfaite que la Renaissance va retrouver en laissant tomber l'architecture gothique qui dominait jusque-là. Ce nouveau style de Renaissance met en avant les notions de symétrie, proportion. Il amène l'idée de motif et s'inspire de l'antique, à la recherche donc d'un esthétisme contemporain. Et c'est plus tard que Le Corbusier va chercher à faire pareil. Son architecture se base sur ce registre de créer des villes idéales, comme à l'époque de la Renaissance. C'est à cette époque que Charles Fourier, philosophe français, dit que harmonie, épanouissement et passion sont les maîtres mots de ce changement architectural, qui sera aussi un changement social, avec quoi ça améliorera les conditions de vie de milliers de personnes. De son côté, Super Studio va retranscrire cette utopie d'une autre manière, mais c'est comme à la période de la Renaissance, sa principale préoccupation. L'utopie, cet idéal qui ne tient pas compte de la réalité. On peut quand même remarquer que Super Studio a plutôt une vision négative de cette utopie. Son travail vise plus à critiquer la société. L'architecture se base en effet, comme on l'a dit, sur ce système de grilles qui fait aussi leur grand point commun. La grille, c'est le point de départ, la perspective est aussi très importante. Il ne faut pas qu'elle soit gênée, c'est pour ça qu'à des échelles un peu différentes, Super Studio et les architectes de la Renaissance vont faire table rase de tous les autres éléments, enlever tout ce qui obscure la perspective pour repartir de zéro et tout recréer. Ensuite, cette fois-ci, on ne va pas parler d'un point commun, mais d'une différence. Ce serait le fait que Super Studio, contrairement au mouvement de la Renaissance, n'est pas dans l'action. C'est-à-dire que, comme on l'a vu dans les descriptions de leurs œuvres, ils créent des photomontages en grande partie, mais ne créent pas les choses directement. Les architectes de la Renaissance, eux, mettent en œuvre leurs idées et les réalisent. Après, on peut se demander s'il faut obligatoirement concevoir pour créer. Mais c'est un peu contradictoire pour une agence d'architecture comme Super Studio de ne pas concevoir ce qu'ils imaginent. C'est donc là une différence qu'on pourrait leur trouver. Ensuite, pour revenir au point commun, je dirais qu'entre eux, c'est leur caractéristique d'être des visionnaires, des inventeurs et des novateurs qui les relient. On peut prendre comme exemple Léonard de Vinci, que tout le monde connaît et qui, comme on l'a dit, a joué un rôle essentiel dans la Renaissance de l'architecture. Il imaginait des choses complètement utopiques, mais il les réalisait. On peut citer ses recherches sur les manières de voler. Il étudiait le vol des oiseaux pour essayer de copier leur manière de voler et essayer de construire quelque chose qui puisse faire voler l'homme à la manière d'un oiseau. Il a créé des prototypes et des machines qui n'étaient pas en état de marche, mais qui existent. Super Studio a imaginé ces grands bâtiments blancs que l'on a décrits sous forme de photomontage, mais ils ne sont pas réalisés en vrai, mais qui seraient s'ils existaient complètement utopiques et novateurs. Ces espèces de grands carrés blancs ne se lient pas du tout au paysage et c'est ce qui rend Super Studio totalement visionnaire pour imaginer un truc pareil, si je peux dire ça comme ça. Ce qu'on peut également retenir de leur travail, c'est leur côté humaniste. En effet, ce sont tous des architectes. Ceux de Super Studio et ceux qui ont révolutionné l'architecture de la Renaissance ont pour point commun ce rapport à l'humain. Le mot architecture est issu du grec tecton, qui veut dire couvrir. L'architecture désigne donc à l'origine l'art de clore et couvrir des lieux. Une architecture est donc faite pour créer, pour protéger un corps comme celui de l'homme. Améliorer son confort, et c'est en effet ce que cherchent à faire ces architectes. Ce qui les rend clairement visionnaires et grands inventeurs de créer, en effet, pour l'homme, cet endroit où il serait heureux, épanoui, dans la nature, sans artifice, à part l'architecture pour le protéger et revenir presque à l'état de nature. On peut conclure cette émission sur la Renaissance et Super Studio en réalisant l'histoire, que l'histoire de l'architecture est en perpétuel changement. Elle ne cesse de se renouveler et de changer. Et on peut dire que, notamment grâce au travail des architectes de la Renaissance et ceux de Superstudio, on pourrait imaginer les villes et architectures de demain. Et je finirai en vous disant d'aller au vernissage de l'exposition Superstudio au FRAC Centre ce 2 avril à partir de 18h30 et que vous pourrez découvrir jusqu'au 11 août. Nous vous remercions tout particulièrement, et ainsi que Gilles Rion et Laetitia Toulon du FRAC Centre, l'Université d'Orléans et Le Bouillon. Très bonne journée.
C'était les étudiants de l'ESAD pour cette émission spéciale sur Superstudio. On vous le rappelle, hein, le vernissage, c'est le 2 avril de l'exposition au FRAC et le 3 avril, vous pourrez découvrir tous eh bien, l'exposition qui vous est proposée sur ce courant architectural des années 70, architecture radicale, qui fait écho bien sûr à la collection permanente du FRAC Centre. On remercie tout le monde.